Ce soir, j'ai un thème que je voudrais aborder et je vais faire un deuxième message dimanche matin. Donc le thème correspond d'un passage en Éphésiens chapitre 6, entre versets 10 et 20. Et je vais demander, parce que j'ai la page ouverte dans ma Bible, Helmut, est-ce que tu peux lire pour nous? Nous avons, ou tu peux faire comme ça, avec ton téléphone. Verset 10 à 20.
Une version?
Seconde, si tu veux.
Hein?
Seconde.
Bon, Éphésiens, pardon, je suis dans 1. Je ne sais pas pourquoi il m'a pris 1. Voilà. Éphésiens 6, à partir de verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté, avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. C'était le verset 20.
Très bien, merci. Ok, prions. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ces derniers deux cultes avant la fin de l'année. Pour les choses que nous avons vécues cette année. Ta grande fidélité, ton amour. Remplis-nous avec ton esprit et conduis ce message. Fortifie ma voix, s'il te plaît. Merci. Amen. Donc, Paul. Épître 2 pour Éphèse, pour les croyants Éphèse. Et la clé ici, c'est peut-être le dernier enseignement qu'il va donner. Donc, un schéma pour les épîtres de Paul. On peut voir et discerner que c'est Paul qui a écrit. Il est certain indicateur. Il écrit toujours salutation de sa part vers ceux qui sont élus. Donc, il note ça. Il salue avec la grâce et il finit avec la grâce. La première partie, c'est la salutation. La deuxième partie, c'est toujours la position, notre position. Donc, c'était la doctrine. C'est vraiment les choses importantes pour le croyant qu'un courage l'Église de penser avec Dieu, de voir notre position. Troisième partie, c'est la partie plus pratique. Donc, on voit en façon pratique. Et la dernière partie, c'est toujours salutation de telle personne. Et des fois, il fait une liste, comme un roman, de peut-être 16 personnages qui sont souvent les gens en contact avec lui, certains disciples qui marchent avec lui dans son voyage missionnaire. Donc, méprise pas les dernières choses. C'est une dernière chose qu'il va dire avant. Donc, il va terminer bientôt l'épître, mais c'est un enseignement tellement important. Au reste, frère, au reste, en conclusion, au reste aussi, de savoir, dans le temps qui reste pour moi de communiquer, je veux communiquer quelque chose d'important. Souvent avec Jésus, les dernières choses qu'il a dit étaient aussi importantes. Pas perdre la concentration quand Dieu parle, quand il y a un enseignement, quand il y a une prédication. Toujours rester concentré. Écoute le message entier. Des fois, nous avons une explication au fond d'un message qui est assez important. Dieu peut parler au travers d'un message pour chacun de nous. Et peut-être une dernière chose, on va dire, mais je ne comprends pas. Et la dernière chose, le prédicateur peut dire, va être la chose en réponse d'une question dans nos cœurs pendant le message. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit de ça? Et souvent, je note ça dans ma vie personnelle. Au reste, frère, première partie. Mes frères, en fait, dans le grec, mes frères, ça veut dire, il faut savoir que pour Paul, il était un apôtre, il était un pasteur des pasteurs, vraiment quelqu'un extraordinaire, mais toute son expérience, tout son enseignement, tous les voyages, tous les disciples, il regarde lui-même avec le même niveau de les disciples lesquels il écrit maintenant. Donc les auditeurs, les lecteurs de cet épître sont dans le même niveau. Ça veut dire qu'il n'est jamais en train de montrer qu'il est plus important que les autres. C'est la vraie humilité de dire, je suis dans le même bateau de vous, je suis pécheur sauvé par la grâce comme vous, je suis un frère avec vous, je vous aime, je suis là pour donner ma vie, pour vous aimer et pour servir. Égalité. Et ça, c'est une marque d'un vrai pasteur, un vrai leader, quelqu'un qui sert. Des fois, on a cette idée que dans la religion, que les gens qui sont plus hauts, plus en avance de nous, sont plus spirituels. Pas nécessairement. Plus doués. Pas toujours le cas. On a tous besoin des autres. Et donc, quelqu'un qui a cette idée dans la religion d'humain, que le chef, on peut dire le leader d'une religion, d'un mouvement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est le même niveau. Devant Dieu, il n'est pas mieux que les autres. Peut-être plus expérimenté, peut-être certaine maturité. Mais lui, il a besoin des autres. Et je vais expliquer dans quelques minutes pourquoi. Donc, cette égalité est importante dans une bataille spirituelle. Et nous sommes dans une bataille spirituelle. Ça, c'est le thème de ce passage. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Deuxième point. Verset 10, toujours. Fortifiez-vous dans le kratos, la puissance qui n'est pas manifestée, mais qui est là, et dans la puissance, qu'est-ce qu'on peut dire, le deuxième mot, est une puissance qui est en fait en Dieu, pas peut-être pas manifestée. Donc, dans la présence de cette puissance interne, qu'est-ce qu'on dit, inherent, inherent, c'est quoi en français? Interne, mais c'est inhérent, c'est quelque chose là, prêt pour être utilisé. C'est partie de son caractère, Dieu. Fortifiez-vous, acceptez, acceptons, en fait, il est en train de dire, acceptons comme moi que j'accepte d'être un réceptacle, d'être un conteneur pour la puissance de Dieu. Pas d'essayer de rester dans ton propre force, ta propre puissance. Les jeunes, en Ésaïe chapitre 40, s'épuisent rapidement. Mais nous, comme les aigles, on va voler. Ça veut dire que c'est possible d'avoir un niveau de force. Et on pense, parce que peut-être on est jeune, ou on a une force naturelle comme Jacob, on pense qu'on peut vivre notre vie dans cette force. C'est pas nécessairement évident comme ça, mais dans notre être, on peut être en train de dire, oui, la faiblesse, ma faiblesse est la force de Dieu. Je me fortifie en lui, mais on ne vit pas ça. On dit ça, mais on ne vit pas ça. C'est nécessaire des fois pour le Seigneur de nous affaiblir. Et quand on est faible, on a vraiment besoin d'accrocher à sa force. Ça implique une humilité. Je dois rester humble. Je dois rester soumis. J'accepte que je peux vivre cette vie parce que je suis en train d'être progressivement affaibli par le Seigneur afin que je puisse être plus fort. Donc cette idée de fortifiez-vous, de rester sous la couverture de Dieu, de reposer en lui et d'être renouvelé en lui. Donc fortifiez-vous, c'est une clé de la guerre spirituelle dans le Seigneur, pas dans la chair de quelqu'un d'autre, dans la chair de Christian parce qu'il est plus fort. Non, parce que Christian, il a ses limites comme moi. Et donc, comme Helmut, mais il a plus d'expérience. Oui, mais l'expérience a ses limites. La vie éternelle est plus que l'expérience. C'est Dieu lui-même. Et comme c'était dit que la perfection en Psaume 119, je veux la fin de perfection, mais tes voies sont immensement large. Ça veut dire la perfection a des limites. La perfection humaine a des limites. Mon expérience a des limites. Mais qu'est-ce qu'on dit? Capacité, ma facilité, mon intelligence, mon intellect, toutes ces choses sont limitées. Pourquoi laisse-moi de rester limité quand j'ai besoin de ressources continuellement dans le Seigneur? Donc, fortifiez-vous. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, acceptez qu'on est faible et on a besoin de sa force. Revêtez-vous, verset 11 et le prochain. Donc, on adresse maintenant au reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout puissant. Maintenant, verset 11, revêtez-vous. Revêtez-vous peut être plutôt cette image d'avoir des vêtements, mais j'ai besoin des autres vêtements. Donc, je vais me vêter. Colossiens chapitre 3 parle de enlever l'homme, l'ancien homme, le vieil homme, et de revêtez-vous avec le nouvel homme. Donc, il faut accepter qu'on doit, par la foi, croire en Dieu et revêtir nous-mêmes avec les armes de le Seigneur. Donc, de revêtir, d'accepter qu'on est nous. On n'est pas seulement des vêtements, on n'est pas seulement habillé. Je vais enlever ça, pas besoin de continuer de faire ça. J'accepte qu'il y a quelque chose, une lacune en moi, une faiblesse en moi, un manque d'humilité en moi, et que j'ai besoin d'être revêté. Donc, qu'est-ce que je dois être revêté? Et on arrive, revêté. Avant que je lance dans ça, un point important. Tous ces verbes, le verbe que nous avons ici dans ce passage, jusqu'à verset 17, du verbe plural. Ça veut dire nous ou vous. Dans ce cas, c'est vous. Vous, ça veut dire plusieurs personnes. Vous allez revêter. Il faut que vous êtes équipé. Ça implique quoi? C'est pas l'individuel. C'est pas une question d'une personne, juste moi. Notre problème en Occident, le monde occidental, est souvent on pense que c'est nous, moi et moi. Et ces films super-héros qui sortent dans le cinéma, je ne veux jamais voir, c'est tellement nul. Mais toute cette culture représente que moi, je peux être fort. Moi, en États-Unis, moi, je suis gagnant. Mais c'est pas moi. La culture orientale est plutôt une culture family ou community. Ça implique que la community est plus fort que l'individuel. Donc moi, si je opérais individuellement, ça, je n'arrive pas. Je dois rester dans une community. Et ça, c'est pourquoi on est parti d'une église, locale, dans l'église universelle. Si je suis seul, je suis isolé, subjectif et facilement manipulé par ce monde et aussi par le diable. Donc ça implique community, ça veut dire d'être connecté et lié. Quand on parle de cette guerre spirituelle, on parle d'une armée. Et Paul est ici en train de parler d'une armée. Il est dit, revêtez-vous, il est en train de pas dire une personne, il est en train de dire plusieurs personnes dans l'église. Et je vais expliquer dans une minute pourquoi que ça est une image de quelque chose que Paul a vu et il est en train de transmettre vers les Éphésiens qui comprennent bien exactement ce qu'il est en train de dire. Donc, revêtez-vous ensemble au même temps. C'est pas individuellement, c'est nous tous. Les guerres en train de passer dans ce monde tragique, perte de plusieurs vies, c'est vraiment tragique, mais voir une guerre, c'est nécessaire pour une armée d'être équipée pour la bataille. Ça veut dire aussi, maintenant j'arrive de ce point, c'est une transition entre deux points, il faut être équipé avec armure. Il y a deux mots pour l'armure utilisés dans le Nouveau Testament. Le premier parle de les armes. Ça veut dire un ou deux ou trois ou quatre. Ici, on parle dans le Darby d'une armure complète. Donc, en train de dire une unité, en train de dire entièrement une armure qui était interconnecté, si vous pouvez comprendre. Et c'est ça que je vais expliquer. Dans la culture grecque, dans le passé, le grec d'antiquité, les villes sont, comme en Italie et en Allemagne, les villes-états. Ça veut dire aussi pour nous à Genève. Genève était un état avant d'être connecté avec la Confédération. Et c'est un État, Genève, un État qui doit défendre eux-mêmes, donc avec une petite armée. Les villes en Grèce, c'était la même chose. Donc Sparte, Athènes, Thèbes, chaque ville avec son propre armée. Et parce que c'était pas dans un début une armée professionnelle, c'était nécessaire que les citoyens de chaque ville sont prêts pour défendre, par premièrement d'acheter ses propres armures et deuxièmement d'entraîner, d'être prêts pour travailler ensemble dans la bataille. Et dans le champ de bataille, la façon que les Grecs ont souvent utilisé, c'est une phalanx. Ça veut dire les soldats qui sont les soldats pas professionnels, mais les soldats, ça s'appelle les hoplites. C'est en français et en anglais, c'est le même mot. Le hoplite. Ça veut dire c'est un citoyen soldat avec son propre armure qu'il a acheté, qui travaille ensemble dans une formation, et la formation est plus forte avec une épée, une lance, une côte, un bouclier, épée et lance, et avec un casque. Et évidemment, une cuirasse, une ceinture et les chaussures équipées pour le champ. Et l'idée est ça, chacun doit apporter ses propres armes et chacun doit rester dans la formation. Ça veut dire nous avons un ennemi en train d'approcher, mais ce n'était pas une guerre avec les soldats individuels en combat, c'est plutôt de rester en formation et trouver une faiblesse dans la formation opposée devant de l'ennemi. Ça veut dire que moi, je suis avec mon bouclier qui est partiellement là pour protéger Christian. Et de mon côté, Isabelle avec un bouclier, son bouclier protège un peu d'elle et un peu de moi. Donc chacun est en train de protéger la personne de le côté gauche ou le côté droite. Et donc, dans ces cas, le lance va être dans la main droite, le bouclier dans la main gauche, et chacun en train d'essayer de percer avec le lance de cet côté ou cet côté pour percer et entrer dans la formation et les soldats devant, dans la formation ennemie. Il faut faire la lutte ensemble et il faut chacun être équipé avec une armure complète. Imaginons que je pas le casque. C'est un risque pour moi, mais un risque pour les autres soldats, parce que si je meurs, c'est une ouverture dans la formation qui peut être profitée par l'ennemi. Et donc, la chose importante, c'était la façon grecque de faire les combats. Et Alexandre le Grand était un expert avec les phalanxes. Mais après, nous avons les Romains qui ont copié ça avec une formation qui s'appelle le torture. Torture, c'est le mot latin, je n'oublie pas maintenant. Mais l'idée est la même. Une formation avec les soldats, avec des épées, avec les lances. Et chacun travaille avec l'autre dans une unité. Il y a une union ensemble et c'est pourquoi que ce n'est pas une question d'un soldat plus fort que les autres. C'est tous les soldats en train de travailler ensemble. Ça, c'est l'illustration et Paul comprend parce qu'il voit ça avec les soldats romains, mais il comprend évidemment parce qu'il était un érudit. Et il comprend bien le passé dans l'antiquité de Grèce. Donc il comprend comment les batailles sont vaincues. Parce que c'était vraiment le passé avec Alexandre le Grand. Donc il est en train de communiquer avec les peuples qui sont proches de la Grèce, qui comprennent ces choses parce que c'était partie de la culture. On est pas dans cette même culture. Et notre problème, des fois, et on pense que quand on lit ces passages, moi, c'est moi. C'est pas moi, c'est nous. Et donc, la bataille doit être un combat, une lutte contre un ennemi qui doit être quelque chose apporté par chacun de nous. Et c'est pourquoi c'est important pour une église d'avoir une unité. Parce que sans unité, on n'a aucune possibilité. Est-ce que Dieu peut protéger les individuels, les individuaux? Oui, il peut. Mais l'idée d'une église qui est efficace pour défendre et d'avoir une position, et avoir une stratégie, et d'avoir une formation qui peut travailler ensemble. Un exemple de comment ça ne va pas marcher et quand on sort en évangélisation. Et un exemple que je peux rappeler est on avait un groupe ensemble. Et le groupe, Pasteur Johan était avec nous, on était tous en train de profiter. C'était pendant la transition de cette église. Et on avait quelqu'un avec nous qui n'a pas la même vision de tout. Cette personne en train de toujours sauter seule des contacts et pas de rester ensemble avec le groupe ou avoir quelqu'un avec eux. Donc, normalement, avec l'évangélisation, on toujours essaye d'avoir deux personnes ensemble pour écouter. Un pour parler, un pour écouter et prier. Et ça marche des fois comme ça. Mais cette personne ne veut pas travailler avec le groupe. Cette personne veut faire les choses même. Et quand j'essaie de connecter avec la personne pour aider, la personne part ailleurs. Donc, je veux rapidement que cette personne n'a aucun intérêt de travailler ensemble. Et ça, c'est un problème. Et une deuxième fois, on avait quelqu'un qui est aussi... C'est pas la même personne qui était avec nous dans un groupe. Et cette personne a peut-être pas la même doctrine ni les mêmes idées. Elle manque de sagesse et commence à approcher un groupe, une famille de témoins de Jéhovah qui sont aussi là pour évangéliser. Cette personne, tout de suite, commence à parler. Et je dis, j'essaie d'expliquer après parce que Pasteur Pierre-André, il a resté d'essayer de résoudre le problème parce que cette personne a manque de sagesse et entre tout de suite dans l'explication sans la sagesse et sans la connaissance. Donc, imagine la possibilité, les choses qui peuvent passer. Quand nous ne savons pas cette même unité, on n'est pas... On est vraiment on dit en anglais un liability. Ça veut dire on est plus un problème qu'on est partie de la solution. Et c'est important d'avoir la même pensée dans l'évangélisation, la même pensée qu'on est dans l'église, les mêmes idées ensemble, de chercher les choses d'en haut, en Colossiens chapitre 3, verset 1, 2 et 3. Donc cette unité est formé avec Christ. C'est pas une unité autour d'un homme, c'est une unité autour de Christ. Et c'est ça qui va marcher. C'est pourquoi on travaille ensemble, et c'est pourquoi dans ce passage que Paul parle de revêtez-vous, équipez-vous, préparez-vous, tenez-vous, résistez-vous contre les ennemis. Il est en train de parler d'une armée ensemble. Et quand il communique ça, il est en train de communiquer cette idée. Vous êtes une armée. Vous n'êtes pas un groupe d'individus. Vous êtes une armée ensemble. Vous êtes une unité. Vous avez unité parce que vous êtes unis. Et quand on parle comme ça, on présente cette image, cette vision qui peut être communiquée et acceptée. Donc maintenant, l'arme complète. Si je ne suis pas équipé, je suis, comme je dis, je vais être un problème pour le reste de l'unité, le reste de l'armée, le reste de la formation. Si je pense que je peux être seul et je peux faire les choses moi-même, de ma manière, il y a toujours des problèmes. Premièrement, l'ennemi cherche pour les gens qui sont seuls et isolés. Donc, c'est pas une question d'essayer de manipuler les gens, de pousser les gens, d'essayer de dire, mais vous n'étiez pas avec nous, pourquoi que vous êtes comme ça? Non, c'est d'aimer les gens, encourager les gens d'avoir les mêmes pensées. Sans ça, la vie chrétienne impossible, personne pas sauter d'auberge, si je peux utiliser l'expression. Arme complète. Donc, cette idée de toutes les armes. Ça veut dire que je dois être équipé avec toutes les choses qui sont notées ici. Si j'ai un manque dans un area, un domaine, j'arrive pas. Si je n'ai pas accepté pas le casque de salut, mes pensées ne sont pas protégées. Si je n'utilise pas la parole de Dieu parce que je suis, oh, je ne lis pas ma Bible, mais je fais d'autres choses. Oui, mais si tu lis ta Bible, tu es comme c'était dit en hébreu, vous êtes un croyant immature qui boit du lait et pas manger la viande. Donc sans la viande, vous êtes inutile pour utiliser et maîtriser la parole de Dieu pour utiliser. Parce que dans une lutte de connaître la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et une fondation, une protection et une armée offensive pour nous. Une arme offensive contre l'ennemi. Quelqu'un qui nous moque, par exemple, dans la famille, on peut dire, mais écoute, je connais mon Dieu, je marche avec lui. Pas besoin de justifier, mais simplement de dire quand quelque chose est passé, je connais mon Dieu. Et je sais, il n'a aucune accusation, aucune condamnation pour lui qui est en Christ. Je ne suis pas mon passé, vous ne pouvez pas me référer avec mes erreurs de ma passé. Je suis une nouvelle créature en Christ et toutes les choses sont devenues nouveaux. Les choses anciennes sont passées. Et on peut utiliser la parole de Dieu contre l'atmosphère aussi, quand il y a une lourdeur. Et des fois, il y a une lourdeur dans nos situations, mais de confesser Christ, d'avoir une attitude, je vais entrer dans ces pavés, dans les portes avec joie et reconnaissance. Et une forme de dire, je confesse mon Dieu devant la face de l'ennemi. Et l'ennemi n'a aucun droit d'entrer. Donc, voir de dire, et quand les gens disent, mais mon église, c'est tellement pourri, il y a des problèmes, je dis, mais écoute, qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit, c'est moi qui ai bâti mon église, et je vais finir la chose que j'ai commencée. Et Pierre, tu es parti de ça, et nous, on est également parti de ça. De connaître la nature et le caractère de Christ, et de dire que j'ai l'épée de la parole de Dieu que je peux utiliser. Le bouclier de la foi, également. Sans un bouclier de foi, je vais recevoir les accusations, les choses enflammées de l'ennemi qui sont là pour nourrir une discussion chaude, un débat inutile. Et donc, je dois être équipé avec toute l'armure. Parce que l'ennemi va chercher toujours pour détruire. Si je manque un peu d'armure, je manque parce que, bien sûr, est-ce que Dieu peut couvrir des choses si je suis un chrétien immature? Oui, il peut le faire. Mais il veut que tu grandisses et pas de rester sur le fait que la passé, le Seigneur était gracieux dans un domaine de notre vie qu'on avait une lacune. Qu'on était jeune, croyant. Et on a fait certaines choses. Maintenant, on n'a aucune excuse. On est plus mature. Et la bataille est maintenant d'un autre niveau. 2024, la guerre va être plus forte qu'en 2023. On ne peut pas rester dans le niveau de 2023. Maintenant, on va aller dans notre niveau. Christ est avec nous, bien sûr. Mais la bataille va être plus féroce. Donc, prochain point. Ah, les ruses, les tactiques du diable, je sais, les tactiques du diable. Le livre de C.S. Lewis s'appelle en anglais « The Screwtape Letters », en français « Les tactiques du diable » est un très bon livre de lire, c'est très intéressant. Les tactiques du diable est en grec « méthodia ». Les méthodes, les moyens. Le diable est un ange déchu, un chef qui enseigne les doctrines sur les anges et il est une couverture pour le Père, il est une couverture pour Dieu. Il a énormément beaucoup d'expérience et son expérience est accumulée. Il a une intelligence supérieure de nous. Évidemment, il est pas le même, qu'est-ce qu'on peut dire, on est en faiblesse, on est humain, on est sur la terre et on est évidemment dans un monde qui est contrôlé par lui. Et lui, il observe, il scrutine toutes les choses de cette vie pour connaître les lacunes de chacun. Il est comme un dossier de chaque croyant, en fait un dossier de chaque personne sur la terre, passé, présent, futur. Il va voir, il va noter les expériences, comment on réagit dans certaines situations, comment on... Il va comprendre les faiblesses dans un mariage, par exemple. Il va dire, je connais exactement comment je peux manipuler que le mari va être en colère ou la femme va être frustrée, il va noter ces choses. Un jeune homme, il va voir, ah oui, il a ça. Donc, je peux utiliser son tempérament et son caractère pour manipuler. Donc, le diable sans cesse en train de scrutiner avec une telle concentration. Évidemment, c'est ces démons qui sont là pour aider. Il y a dans ce passage, je vais tourner, juste regarder. Verset 12, je n'ai pas vraiment noté sur ça, sur mon étude, mais il faut savoir qu'il y a une hiérarchie des démons. Comme nous avons des leaders humains dans notre monde, il y a des leaders qui influencent, les démons qui influencent certains personnages. On peut noter dans l'histoire que certaines personnes sont, qu'est-ce qu'on peut dire, manipulées, influencées, contrôlées par les démons. Parce que les démons ne sont pas très intéressants de contrôler une personne si tu peux contrôler 10 000 personnes avec une personne. Donc, tu as un leader qui contrôle un canton, tu peux contrôler le canton. Cherchons, avec le temps que tu as qui reste, le diable connaît son temps et court, de voir qu'il peut utiliser une personne pour contrôler 10 000. Et en plus, un pays entier, des pays, des nations. Donc, voir qu'il y a une hiérarchie, il y a une domination sur une ville. Visite Sion, tu vas voir, il y a une certaine ambiance spirituelle. Ici à Genève, nous avons une autre ambiance spirituelle. Passe la frontière à Gaïa, une autre ambiance. Et les démons travaillent dans les frontières. Et ces frontières sont souvent des places très intéressantes parce qu'on peut constater un changement de territoire démonique. J'ai noté ça quand j'ai visité la France après le Dôle. Tu montes jusqu'à Saint-Sergue, après, continue vers dans le Jura, tu passes la frontière, c'est une ville entre divisée entre la France et la Suisse, et l'ambiance change. C'est tellement intéressant, j'ai noté ça. Donc, il faut que nous sommes sages et nous sommes des étudiants de noter ces choses. C'est pas pour regarder le diable être obsédé, c'est de noter ces choses existent et de dire, ah, maintenant je comprends un peu plus. Merci Seigneur. Donc c'est pas juste une question de le diable en train de nous scrutiner. Il est pas en train juste de nous étudier. C'est nous qui peut étudier ces tactiques aussi. Et on peut faire ça parce que Dieu a donné une pensée spirituelle. Il a donné la parole de Dieu qui révèle certaines choses sur Satan et son ami spirituel. Donc, de savoir les tactiques du diable et de ne pas être ignorant. Je croisais un jeune homme, quand j'étais toujours en Angleterre, j'ai posé la question parce qu'il était dans une église, il dit, qu'est-ce que tu penses de l'Apocalypse, livre d'Apocalypse? Je suis en train de lire quelque chose. À ce moment, c'est très intéressant. Il a dit, on ne lit pas l'Apocalypse. Je dis, mais tu ne lis pas l'Apocalypse? Non, c'est interdit de lire. Ça, c'est complètement n'importe quoi, parce que évidemment, on enseigne, on est enseigné, on est à des étudiants de l'Apocalypse, c'est tellement pertinent, et il y a une bénédiction pour nous qu'on enseigne, qu'on étude. Apocalypse, c'est peut-être une des choses les plus importantes, et particulièrement dans ces derniers jours. Donc, ignorance n'est pas une excuse. Pour nous, on peut racheter le temps, on peut observer, on noter les choses. Le prochain et le dernier point. Notre lutte. Ça, c'est en verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La vie est une lutte. La vie sans cesse est une lutte. Si dans un niveau micro, qu'est-ce qu'on dit micro? Microscopique. Notre corps est protégé par un organe qui s'appelle la peau. La peau est un organe qui protège, qui est tellement sensible, et c'est une protection pour le corps interne, les organes internes. Si je coupe quelque chose dans la peau, par exemple avec une épée, un couteau en train de couper quelque chose, j'ai un petit, pas un cicatrice, une coupure, une blessure. Et cette blessure, qu'est-ce que se passe? Il faut laver tout de suite, désinfecter. On a pris quelque chose avec le COVID, de désinfecter sans cesse. Désinfecter, pourquoi? Parce que la vie microscopique est une lutte contre les bactéries et les virus. On ne peut pas voir les bactéries et les virus, mais ils sont là. Ils cherchent pour une ouverture. Quand tu as un room, c'est parce que le nez est en train de recevoir, ou le gorge, un virus qui essaie d'entrer dans le corps pour faire plus. Pourquoi? Nous sommes des experts de la chose en train de vivre. Mais de savoir pour nous, c'est une lutte. Et le corps va lutter par monter la température. Ça s'appelle une fièvre. Donc on va avoir une fièvre parce que c'est une réaction du corps avec les anticorps en train de lutter contre un élément étranger qui entre dans le corps. Ça, c'est une lutte. Deuxième lutte, on décide d'établir une famille, d'avoir une famille. Donc, un couple marié, après ça, il commence à vivre, avoir des enfants. Donc, il y a des défis, des sacrifices, problèmes de santé des enfants, les factures gérées, les scolarités, toutes les choses, une maison, acheter une maison, toujours regarder de le niveau d'une famille, quels sont les besoins. C'est une lutte. C'est une lutte, peut-être on ne parle pas de ça, mais c'est une lutte parce qu'il faut vivre sur la terre et il y a des défis. Donc, devant nous, chaque jour, il y a une lutte. C'est une lutte si tu conduis une voiture et tu passes la ville pour aller à l'aéroport. Tu dois lutter. Si tu prends un vélo électrique ou un vélo normal, c'est une lutte avec les autres cyclistes et aussi avec tous les scooters, tous les piétons et aussi avec les trottinettes. C'est une lutte. Tu commences le travail dans notre institution. Il lutte en compétition, en concurrence avec les autres collègues pour arriver à un certain niveau. D'être formé dans l'école et l'université, c'est une lutte pour arriver à un niveau de passer des examens. Toutes ces choses sont luttes. Pour les politiciens, c'est une lutte pour être élu. Après ça, de rester en pouvoir. Pour les partis politiques, c'est une lutte. Pour les constitutions, pour le gouvernement fédéral, c'est une lutte. Pour une armée, dans une nation, évidemment, c'est un travail, peut-être dans une guerre, d'une lutte. Toutes ces choses sont des luttes légitimes et vraies, mais Dieu est en train de dire quelle lutte. C'est pas une lutte contre le sang et la chair. La lutte que nous sommes en entrée est une lutte contre les guerres spirituelles, contre les ennemis spirituels qui sont invisibles. Est-ce que parce qu'ils sont visibles, ils sont pas là? Non, pas vrai. Ils sont toujours en train d'entrer comme cet virus en train d'entrer dans le corps humain. Ils sont toujours en train de chercher pour une faiblesse, pour entrer un accès. Et donc, il faut assumer la guerre est là, c'est spirituel, l'ennemi est invisible, il cherche de faire mal contre moi. Ça, c'est une phrase, on peut dire, on est sous-estimé. On ne peut pas exagérer de dire qu'il va faire mal contre moi, de ultimement de me détruire. Donc, acceptons pas juste les luttes de la vie. Acceptons premièrement de laisser Dieu de nous aider dans une lutte spirituelle. Ça veut dire que je dois assumer en tant que croyant que je suis dans cette lutte. Je suis dans cette lutte déjà depuis le moment où j'ai accepté Christ. Maintenant, je suis inscrit dans une armée. Maintenant, l'ennemi est là. Et maintenant, je dois être équipé, préparé pour cette lutte. Et Paul est en train de communiquer ça aux Éphésiens dans la ville d'Éphèse. Il est en train de dire, écoute, ces choses sont tellement importantes, ne perds pas la vision de ces choses. Et à la fin de cette année, ça, je présente en réponse de la vision qu'on a donnée au début d'année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit vivre? Comment il faut comporter dans la maison de Dieu? Qui est le colon et la colon et l'appui de la vérité. Comment je peux vivre dans cette communauté de la grâce? La réponse, on part ce soir, et ça, c'est une guerre, acceptons, travaillons ensemble, restons ensemble, encourageons ensemble, équipons ensemble, préparons ensemble, et de prendre la bonne lutte et pas la mauvaise. Si on tourne dans un rond, si on vit dans la vie naturelle, on va toujours rester dans une lutte contre certaines choses. Toujours de payer les factures, toujours de gérer les situations de travail, toujours d'aider ma femme, mes enfants, ou de chercher pour être marié, ou chercher pour autre chose, un travail, une famille, une maison, une voiture, gagner l'argent, avoir des économies. Mais ça, c'est pas vraiment la lutte que le Seigneur est en train de dire. Il a dit, vous avez cette lutte, mais la première lutte, et Dieu va donner évidemment le pouvoir, la provision pour ces autres choses, mais la première lutte est cette lutte spirituelle. Et quand on entre dans ça, toutes les choses vont rester dans le bon ordre. Voilà, que Dieu vous bénisse.